RFI, il est 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. C'est la une de ce journal. La situation dans l'est de la RDC, encore une fois avec la progression des éléments du M23 qui se poursuit au sud Kivu. Quand la diplomatie n'arrive toujours pas à accorder ses violons au Conseil de sécurité des Nations Unies, nouvelle réunion d'urgence hier qui n'a pas abouti. Direction ensuite le Gabon pour entendre la colère des postiers. Ils manifestaient hier dans la rue. Ils réclament notamment des arriérés de salaire. Une cérémonie attendue aujourd'hui à Abidjan. L'armée française s'apprête à rétrocéder officiellement la base de Port-Boué aux forces armées ivoiriennes. Et cela au terme de 2 ans de discussions. Nouvelle étape dans la reconfiguration de l'armée française en Afrique. Et puis, une légende du cinéma africain qui s'éteint. Le réalisateur malien Souleymane Cissé. Il nous a quittés à l'âge de 84 ans. Après avoir pris Goma il y a quelques semaines au nord Kivu, après avoir pris Bukavu également dimanche au sud Kivu, les éléments du M23 poursuivent donc leur progression vers le sud aux côtés de leurs alliés rwandais déployés dans l'est de la RDC. Ils semblent se diriger désormais vers la grande ville d'Uvira sur les berges du lac Tanganyika situé juste en face de la capitale burundaise Bujumbura. Uvira où des scènes de pillage ont déjà été constatées hier. Des accrochages également avant même l'arrivée du groupe armé, Alexandra Bronjon.
Dès 7h hier matin, des tirs sporadiques ont éclaté dans le centre d'Uvira. Il s'agirait d'accrochages entre miliciens Wazalendo et militaires congolais, explique cet habitant.
Il y a eu des coups de balle, encore des affrontements entre certains Wazalendo et des militaires FARDC qui quittaient la ville d'Uvira. Certains Wazalendo se sont maintenant attaqués au FARDC. Les affrontements ont commencé jusqu'à aux environs de 16 heures. Il y avait encore des coups de balle qui se faisaient à travers dans la ville.
Les portes de la prison centrale ont été détruites et plusieurs centaines de détenus se sont évadés. D'importants pillages de commerces et particuliers ont été signalés à travers la ville, impliquant des hommes armés, parmi lesquels certains militaires, ce qui a créé la panique, explique cet autre habitant.
Il y a des pillards, il y a des détenteurs d'armes qui sont en train de passer maison par maison pour demander à la population de remettre l'argent des téléphones. Et si vous n'en avez pas, on vous tire dessus et ça inquiète jusqu'à ce que notre population est en train d'abandonner la ville.
Hier soir, le calme était revenu à Uvira. La majorité de la population a fui vers le Burundi ou par bateau en direction de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Contactés par RFI, les autorités congolaises n'ont pas réagi.
Et pendant ce temps, Alexandra Bronjon, nouvelle impasse hier au Conseil de sécurité des Nations Unies qui se réunissait en urgence à nouveau sur cette guerre dans l'est de la RDC, mais toujours pas de consensus à New York, donc pas de décision concrète. Position vivement critiquée par la chef de la diplomatie congolaise lors de son discours devant ce Conseil. Thérèse Kayikwamba Wagner a appelé au vote d'une résolution imposant entre autres des sanctions contre les responsables rwandais, ainsi qu'un embargo sur les exportations de ressources naturelles en provenance du Rwanda. Je vous propose de l'écouter, Thérèse Kayikwamba Wagner.
Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce Conseil. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir.
Voilà les mots de la chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner hier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Message lancé à l'heure où les religieux de RDC appellent quant à eux au dialogue pour mettre un terme à cette guerre, un dialogue avec tous les belligérants qui sont parties prenantes dans ce conflit. Ce matin, justement, le secrétaire général de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, était notre invité, Donatien de Cholet. Entretien à retrouver, évidemment, sur internet, RFI.fr.
RFI à Libreville, 104 FM.
Libreville, où se déroulait hier une manifestation, la capitale gabonaise, marquée par la colère des postiers qui dénoncent une mauvaise gestion de la poste gabonaise. Ils en veulent particulièrement à la fermeture de tous les services rentables ayant pour conséquence, selon eux, des retards dans le paiement de leurs salaires. Manifestation pacifiquement évacuée par les forces de l'ordre quand le ministre de la Communication a promis, lui, de payer les salaires de janvier d'ici quelques jours, mais cela ne suffit visiblement pas aux postiers qui réclament une recapitalisation de la poste. On fait le point avec Yves Laurent Goma.
Boulevard du bord de mer, l'un des plus prestigieux et fréquentés de Libreville. Les postiers ont brusquement investi la voie, les uns assis sur des chaises plastiques, les autres debout, tenant à bout de bras une banderole. La colère est montée d'un cran.
Tout ne marche pas. Depuis la tête.
Si la poste va aussi mal, pourquoi ne fait pas qu'on paye nos droits?
Guy Romain et Couti, délégué du personnel.
Ça fait 10 ans que les agents se plaignent. On dit ventre affamé, n'a point d'oreille.
La police a fait entendre raison aux manifestants qui ont pacifiquement libéré la voie. En fin d'après-midi, le ministre de la Communication, Laurence Ndong, a expliqué pourquoi les salaires de janvier seront payés en retard.
Les salaires sont payés à la poste et ça tous les mois, mais le circuit de la dépense publique rallonge un tout petit peu les délais de paiement des salaires, surtout au mois de janvier où l'on doit attendre la mise en place du budget.
En dehors du paiement des salaires des fonctionnaires, les postiers ne vendent plus que les timbres et livrent quelques colis postaux. La banque postale, les mandats et transferts d'argent à l'étranger ne fonctionnent plus. Les postiers exigent la relance de tous ces services pour un retour à la prospérité. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
L'indignation du Soudan au Kenya. Vous l'avez peut-être entendu sur RFI. Le général soudanais Hemed Tilleux, chef des FSR, envisage un gouvernement parallèle à celui qui soutient son rival, le général Al-Burhan, à la tête, lui, de l'armée soudanaise. Et le général Hemed Tilleux peut compter pour cela sur le soutien d'une initiative lancée cette semaine depuis la capitale kenyane, l'Alliance fondatrice du Soudan, qui réunit des acteurs soudanais et qui soutient donc justement l'idée d'un nouveau gouvernement. Or, sur place, à Nairobi, une partie du monde politique et de la société civile kenyane se demande bien comment leur ville a pu accueillir cette annonce. Le général Hemed Tilleux est en effet sous sanction américaine, soupçonné avec ses troupes d'épuration ethnique au Darfour, Gaël Lalex.
Aujourd'hui, nous accueillons des seigneurs de guerre, écrit sur X l'ancien vice-président kenyan Rigathi Gachagua. Nous faisons la une des journaux pour avoir découvert de nouvelles façons d'embarrasser la nation. Pour l'avocat et militant pour la bonne gouvernance Willis Evans Otieno, le Kenya ne peut se permettre de devenir un terrain fertile pour les insurrections étrangères. Car l'événement de mardi a des airs de déjà-vu. En décembre 2023, c'est à Nairobi qu'est née l'Alliance Fleuve Congo, branche politique du M23, groupe armé aujourd'hui en pleine offensive dans l'est de la RDC. Nairobi est non seulement devenu le refuge des persona non grata, mais aussi la capitale de l'oppression transnationale, s'indigne Martin Mavenjina de la Commission kenyane des droits de l'homme. Depuis plusieurs années, les enlèvements d'opposants politiques étrangers se multiplient. En novembre, l'Ougandais Kizza Besigye a notamment été kidnappé à Nairobi avant de réapparaître quelques jours plus tard devant une cour martiale de son pays. Le Kenya ne respecte plus aucune loi internationale, se désespère Otieno Namwaya de Human Rights Watch, qui s'interroge sur le devenir du pays sur la scène internationale. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
La cérémonie aura lieu ce matin à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, où l'armée française s'apprête à rétrocéder le camp militaire de Port-Boué aux forces ivoiriennes. Le ministre ivoirien de la Défense, Tene Biraïma Ouattara, sera présent. Il était d'ailleurs notre invité récemment sur RFI pour détailler l'orientation de l'armée ivoirienne, entretien à retrouver sur internet, et présence annoncée également ce matin à Abidjan du chef des armées français, Sébastien Lecornu, alors que cette rétrocession marque une nouvelle étape dans la reconfiguration de la présence militaire française sur le continent, Franck Alexandre.
Le drapeau français ne flottera plus sur le camp de Port-Boué. La base portera désormais le nom de général Ouattara Thomas d'Aquin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Après le départ du Gabon l'été dernier, puis du Tchad en janvier. La rétrocession du camp d'Abidjan est une nouvelle étape de la reconfiguration du dispositif français. La France, face au vent de souverainisme africain, est contrainte de renouveler ses relations. La fin de l'opération Barkhane au Sahel a également sonné le glas d'une empreinte militaire française permanente devenue radioactive. Cette reconfiguration se traduit donc par la disparition des bases militaires historiques, ce qui pour l'armée française offre l'avantage de ne plus être impliquée de manière automatique en cas de crise. Prochaine étape, le Sénégal, où les éléments français comptent encore quelques 300 militaires. Une commission mixte franco-sénégalaise a été mise en place. Paris attend la date de départ choisie par Dakar.
Franck Alexandre, il laisse derrière lui un énorme héritage cinématographique. RFI rend ce matin hommage au réalisateur malien Souleymane Cissé, qui s'est éteint à l'âge de 84 ans. Auteur d'une trentaine de films, c'était le premier réalisateur d'origine d'Afrique subsaharienne récompensé à Cannes, au célèbre festival où il a décroché le prix du jury en 1987 pour son film Yélène. Souleymane Cissé, son parcours ce matin, on y revient avec Isabelle Chenu.
Souleymane Cissé a 20 ans lors de l'indépendance de son pays et comme bien d'autres cinéastes africains, il part se former en Union soviétique, apprenant le métier de projectionniste puis de directeur de la photographie. De retour au Mali, il parcourt son pays, caméra à l'épaule pendant 3 ans comme reporter au service cinéma du ministère de l'Information. Sa filmographie militante sera souvent censurée. Son premier long métrage en bambara, Den Musso, la jeune fille, raconte le drame d'une fille mère muette et abandonnée, symbole de l'oppression des femmes. Le film sera interdit au Mali. Pas assez pour le décourager. En 1978, Bahara, le travail, remporte l'étalon d'or de Yenenga. Puis il y aura Figné, qui met en scène la révolte d'étudiants maliens contre le régime militaire. En 1995, Wahati retrace la vie d'une enfant noire sud-africaine fuyant l'apartheid à travers l'Afrique. Souleymane Cissé, engagé et humaniste, avait su faire découvrir par ses images la richesse des récits africains.
Isabelle Chenu qui nous livrait le portrait de Souleymane Cissé, décédé à 84 ans. Il s'apprêtait d'ailleurs à présider un jury pour le 29e FESPACO, le festival de Ouagadougou qui s'ouvrira après-demain. Un rendez-vous qui devra malheureusement faire sans lui. 8h41 ici à Paris. On continue notre matinale avec Marion Cazeneuve.